Donc vous l'avez compris, nous aimons bien Dragon Ball et Dragon Ball Z, l'univers de Toriyama, sauf le dernier film Battle of Gods que vous pouvez donc zapper sur nos conseils pour vous plonger dans la bande dessinée et dans l'œuvre. Néanmoins, depuis la création de la bande dessinée, son apparition en France, il y a énormément de, bah, ça a créé énormément de polémiques dont on va essayer de parler, de débattre ici. Julien, il me semblait que tu voulais ouvrir avec un point qui ne semblait pas tout à fait réussi dans Dragon Ball.
Peut-être pas tout à fait réussi, mais ça, je pense que ça a aussi nourri la polémique à l'époque, c'est que, peut-être pas sur Dragon Ball, mais en tout cas sur Dragon Ball Z, il y a un côté surpuissant. Dans le sens où, voilà, au début, on comptait par exemple en nombre d'unités, on était à 1000 unités, c'était encore.
Quantifiable.
Voilà, c'était encore quantifiable, et après, les ennemis deviennent surpuissants, et ils utilisent cette puissance, par exemple, quand je regarde un Super Saiyan 3 dans Boo, Sangoku fait un Kamea, et détruit, je crois, et Babidi lui dit t'as détruit un 16ème de la planète, t'es censé la défendre, cette planète. Et je me dis, t'as une certaine surpuissance, et je me demande
pourquoi. C'est une surenchère. Hein.
Voilà, pourquoi aller dans cette surenchère alors qu'avant. Il t'avait les boules d'énergie, mais voilà, il y avait un côté, c'était encore possible d'y croire. Et là, je me demande s'ils sont pas devenus un petit peu côté surpuissant. Et t'as aussi, je pense que ça a nourri la polémique à l'époque, justement, par le fait qu'il y avait, il y avait énormément de destruction visuelle.
Alors, Julien, si je peux me permettre, en fait, je suis d'accord avec.
Rapproche-toi du micro.
Je suis d'accord avec toi. Néanmoins,
dans
on aime ça. Néanmoins, dans Dragon Ball, hein, quasiment dès le début du manga. Pour éviter que Goku se transforme en gorille géant, tortue géniale hein, depuis la planète Terre.
Il détruit la Lune.
Ouais. Il détruit la Lune. Bon, voilà. Donc, tu vois, ça, c'était déjà là presque 10 ans avant, tu vois. Donc,
Sachant que Tortue Géniale deviendra un des personnages les plus faibles de la série, quoi.
Non, mais voilà. On est d'accord.
Je sais pas, ouais, c'est la pression que dans certains arcs, par exemple, voilà, quand Gohan devient. Quand se libère sa colère, t'as un côté vraiment électrique, on va dire. Et t'as vraiment le dégagement d'une puissance, vraiment, encore qui pourrait détruire toute la planète, quoi. Et là, ça devient vraiment. C'est peut-être pas la Lune, mais ça vraiment, vraiment, vraiment quand t'as les. Quand ils sortent leur. Je connais plus les noms des techniques, quand ils libèrent leur énergie, tu vois, mais ça. C'est énorme, quoi. C'est plus un caméra, c'est plus contrôlé. C'est presque incontrôlable. C'est un truc comme ça, comme Piccolo est fait contre Freezer, tu vois. Je connais pas la technique.
Comme ça, on voit pas dans
le. Mais... ouais, mais tu vois, c'est carrément. Voilà, on dirait presque qu'il pourrait détruire. Pas un système solaire, mais presque, quoi.
Et ça, c'est la structure en même temps, du manga qui veut ça.
Sangoku
est présenté
ouais.
comme extrêmement puissant à la base. Mm-hmm. C'est un espèce de génie des arts martiaux. Forcément, son but, c'est de s'améliorer. Donc, à chaque fois, il va rencontrer des adversaires plus puissants. Donc, la puissance va forcément en crescendo. Quoi.
Ouais,
là, c'est devenu un dieu dans le dernier film.
Voilà,
donc, après un dieu, on va voir ce qu'il va devenir. Et alors, ça, c'est l'autre reproche, à mon sens, qu'on peut faire à Dragon Ball. C'est que finalement, et à beaucoup de mangas d'ailleurs, finalement, est-ce que c'est pas toujours exactement la même chose, la même histoire qui est racontée, juste de manière différente, et avec un peu plus de puissance, comme tu le disais, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère répétitif qui peut être un petit peu lassant, quand on a vu les, je sais pas, enfin les 40, les, au bout des 42 tomes, ou des 160, voire plus
il y a un côté répétitif
280 épisodes de la série.
Dans les 12-15 premiers tomes, c'est toujours une répétition au niveau des tournois où tu as une phase, on va dire, d'entraînement. Alors, c'est vrai que tu as une recherche de la boule de cristal, et puis après, une fois que tu as les segments d'entraînement, tu as toujours la pratique. Ils vont rencontrer une sorte de maître qui veut les entraîner pour un certain nombre d'années, et puis revient le tournoi. Et peut-être que justement, Akira Toriyama s'est rendu compte que justement, il y avait peut-être une certaine lassitude. Alors, moi, je le vois peut-être pas comme ça, mais c'est pour ça qu'après, il a fait mûrir son personnage et qu'il a changé son scénario là-dedans.
Néanmoins, non, effectivement, c'est super cyclique. Déjà dans Dragon Ball, c'est ça, c'est on va chercher boule de cristal, tournoi des arts martiaux, on recommence, rebelote. Et dans Dragon Ball Z, c'est exactement pareil. On change les personnages, mais ce sont les mêmes globalement. C'est le même entraînement dans la salle du temps, dans la salle de la gravité. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce côté qu'il arrive néanmoins à casser, ce côté répétitif, par un nombre de extrêmement charismatique de personnages, tous plus farfelus que les uns que les autres.
Dans
Dragon Ball, mais même après dans Dragon Ball Z, même de personnages sérieux, où vraiment Toriyama va chercher. On va être curieux de savoir quelles vont être les techniques des personnages, quelles techniques ils vont démontrer. On va plus un peu passer. La différence va surtout se jouer sur ça. D'un personnage à un autre, quelle technique va-t-il apporter de plus par rapport à l'autre?
Donc c'est des variations dans une structure cyclique.
Oui, bah c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Ouais.
Vas-y, Yannick.
Yannick, tu avais quelque chose à dire sur le fait que ça soit toujours la même chose, mais on est arrivé au fait qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était les variations dans la structure qui scotchaient à chaque fois le spectateur.
En fait, non, moi je suis assez d'accord que c'est effectivement répétitif. J'avoue, moi, avoir quand même toujours, enfin, quand j'ai grandi, avoir préféré la partie Dragon Ball qui était, même si, bon, t'avais effectivement ce côté cyclique avec la recherche des Dragon Ball avec effectivement les tournois et tout, mais je trouvais quand même dans ces cycles-là beaucoup plus de diversité. Je pense par exemple à la lutte face à l'armée du Ruban Rouge qui est un moment absolument génial. Il y a des combats, mais il y a beaucoup de voyages, beaucoup de personnages qui apparaissent, beaucoup de choses. On retrouve Frankenstein, on retrouve Sangoku qui découvre la neige. Enfin, il y a plein d'idées à chaque page du manga. Mais enfant, je me rappelle m'être réjoui dès qu'il y avait un tournoi d'arts martiaux parce que justement on allait découvrir ces duels absolument fabuleux avec des adversaires toujours plus forts. Et donc enfant, quand on a plongé dans Dragon Ball Z, découvrir ces combats dantesques avec Freezer qui n'en finissait plus de se transformer, d'acquérir encore plus de puissance, c'est quelque chose quand on est gamin qui est absolument magnifique, cette quête de puissance, cette immense force capable de détruire une planète, c'est voilà quoi.
Ok, bon ben ça me semble bien sur cette question. Justement, il y a un mot qui est... Bon, on sait que c'est un shonen. Là, t'as dit, quand on est enfant, c'est quelque chose qui fascine. Un des problèmes qu'on peut poser, notamment à Dragon Ball Z, c'est que les personnages deviennent adultes, ne sont plus des enfants, sont censés avoir des idées, des attitudes d'adultes, ont eux-mêmes des enfants. Or, il n'y a rien qui est... Enfin, Toriyama est incapable d'écrire une histoire d'amour. Enfin, en tout cas, dans Dragon Ball, il ne le montre pas. Et au niveau des relations hommes-femmes... Ça n'existe quasiment pas dans Dragon Ball Z. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction dans le fait de vouloir développer des personnages adultes et en même temps, pour le dire comme ça, ne pas du tout évoquer la sexualité qui pourtant est évoquée dans Dragon Ball. C'est-à-dire, c'est un truc qui n'existe pas. Les enfants
naissent.
Non, en fait, la sexualité est évoquée dans Dragon Ball. Tu vois Tortue Géniale, tu vois Krillin, Yamcha par rapport à Bulma. Tout ça, mais donc on est plus dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, donc de quelque chose en fait qui est plus pur. Dès l'instant qu'on en arrive aux relations amoureuses entre adultes, bon, je vais pas te faire un dessin, mais au Japon, tu sais que niveau sentiments et relations, enfin les relations amoureuses, c'est pas, on va dire, le point fort des Japonais, c'est-à-dire...
Ah, il y a des mangas qui écrivent ça aussi, hein. C'est,
Oui, mais dont, comment dire, dont le... les mangas tournent autour de ça, notamment de Katsura, avec Video Girl High, parmi bien entendu, mais ils sont quand même centrés sur les histoires d'amour. Je veux dire, par exemple, ce syndrome que tu décris dans Dragon Ball Z, tu le retrouves également dans Saint Seiya. Dans Saint Seiya,
ils ne deviennent pas parents dans Saint Seiya. Ils restent adolescents.
Mais il y a une scène qui résume vraiment le sentiment, je pense, de Dragon Ball sur le sujet. C'est quand ils se font emprisonner par Pilaf. Et que Pilaf veut les torturer pour obtenir la Dragon Ball qu'ils ont, il récupère Bulma et en fait il lui envoie un baiser. Et là Bulma regarde en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, je croyais que t'allais me dépecer vivante. Et là tout choqué, Pilaf dit ben non, on est dans un manga correct, on fait pas des choses comme ça.
Ah ouais, il joue pas avec ça. Moi justement c'est un peu ça. Alors ça me choque pas trop dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball.
En fait, Victor Lopez, t'aurais préféré que Goku ait des relations sexuelles avec Chichi, c'est ça?
Absolument. Qui...
Non, mais même en avec, tout cas, avec Chichi, c'est un peu une blague, quoi. C'est, ils étaient promis quand ils étaient enfants. Tu m'avais promis quand j'étais enfant sans Goku de te marier avec moi. Ah, j'avais promis ça. D'accord, on va se marier.
Mais oui, c'est
en plein tournoi. En plein tournoi.
C'est la naïveté de Son Goku dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il est tellement pur, tellement naïf. Ah bah j'avais promis de qu'on se marie, bon bah alors voilà, on va se marier.
Ouais, mais sachant qu'il ne sait même pas ce que ça voulait dire en fait à cette époque. Hein.
Ouais, mais c'est un...
Ah mais il le dit, il le savait pas, on est pas du tout.
Ça veut dire quoi, mariage?
C'est un petit peu instrumentalisé, c'est-à-dire, voilà, il doit se marier parce qu'il doit avoir des enfants, donc c'est pour ça qu'il se marie. Et pareil, on sait qu'il y a Trunks qui existe, donc il faut que Vegeta et Bulma soient ensemble. Mais finalement, ils ne construisent pas une... Il y a,
ouais, c'est presque Toriyama. Un mariage de raison, ce qui est très japonais, entre guillemets.
Ok, donc ça va dans... Justement, pour vous, c'est dû à la mentalité japonaise que reflète Dragon Ball sur cette question.
Pas pour moi, c'est juste qu'il avait pas, il voulait pas aborder ce sujet, c'est tout. Pour moi, c'est ça.
Non, je pense que vraiment, il a fait grandir ses personnages, il les a rendus adultes pour... bah parce que forcément, il fallait bien, vu que ça se déroulait sur des années et des années, en faisant accroître de la, en puissance, etc., bah fallait bien aussi leur faire prendre des années. Donc, il a triché un petit peu en faisant que Sangoku savait pas compter, donc croyait qu'il avait 14 ans au début du manga, alors qu'en fait il en avait que 12. Mais bon, ce genre de tricherie, ça peut pas marcher longtemps. Mais c'était quand même destiné à un public d'enfants. Je veux dire, j'ai découvert Dragon Ball, j'avais 10 ans.
Ouais.
Donc, tout ce qui est sexualité, c'est pas quelque chose qui aurait pu être exploité. Donc je pense que c'est vraiment pour rester centré sur son public d'origine. Ouais. Alors après, le public a grandi et on est devenu adulte en aimant toujours ça et en le regardant avec des yeux différents. Mais il faut quand même pas oublier que ça a été fait pour des enfants de 10 ans, à leur âge adulte.
Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on finalement Battle of God ne plaît pas aujourd'hui. C'est parce que c'est destiné à un public de 10 ans aussi. Enfin, c'est pas.
Ouais, mais
c'est
le combat final reste quand même tout moisi, par exemple.
Il s'adresse à tout le monde. Justement, il est trop consciencieux.
Ce qui est ressorti du visionnage avec Victor, c'est que en gros, nous, on a limite plus pensé que c'était un film qui s'adressait aux jeunes parents, donc les trentenaires, entre 30 et 40 ans en fait, qui voulaient faire découvrir Dragon Ball, l'univers de Dragon Ball, à leurs gamins.
Oui, ça peut marcher dans cette perspective, je pense.
Oh, mais c'est fort probable, parce que, je veux dire, rien que de mettre ce catalogue de personnages, c'est vraiment pour faire jouer la fibre nostalgique. C'est clairement ça. Et la fibre nostalgique, c'est qui là, c'est des gens de notre âge. Mais ils ont gardé la naïveté, ils ont gardé une forme de naïveté du manga originel. Mais honnêtement, pour avoir relu le manga et m'être replongé dans la dite naïveté, dans l'esprit du manga, je trouve vraiment que Battle of God le trahit par une certaine forme d'incompétence.
Non, mais je suis d'accord aussi, il y a plus de cruauté dans les premiers Dragon Ball que dans Battle of God, qui est devenu très aseptisé par rapport à ce qui aussi pouvait se faire à l'époque, je pense en 85, dans un shonen, et par rapport à ce qui est devenu le shonen aujourd'hui. Ça aussi, c'est possible.
Après, en 85, Toriyama était plus jeune, donc il avait sans doute plus de choses à dire que maintenant. Toriyama, il doit bien avoir 50 ans bien tapé, si ce n'est pas loin de 60 maintenant. Et bon, voilà, quand on devient vieux, on a tendance à s'agir.
À se répéter aussi.
Voilà.
Et c'est une autre question qui est que Dragon Ball est cité comme, par beaucoup comme le meilleur manga de tous les temps. Or, c'est vrai que Toriyama semble être incapable de mettre en place un autre manga qui ait au moins autant de succès. Ou soit assez intéressant. Est-ce que Toriyama ne serait pas un peu le George Lucas des mangas, enfermé dans une franchise unique et obligé de se répéter indéfiniment jusqu'à ce qu'il la vende complètement et qu'elle passe entre d'autres mains, mais en tout cas incapable de faire autre chose que ça?
Ça expliquerait pourquoi il a foiré la suite dans ce cas-là, parce que du coup, George Lucas, quand il a essayé de retoucher à ses Star Wars, il a fait que de la merde, donc là on est dans la même... Dans le même ordre d'esprit.
Ouais. Dans la comparaison, parce que tu allais me demander pourquoi je les compare, parce que George Lucas essaye aussi de sortir de Star Wars depuis très longtemps, et finalement il y est revenu à chaque fois, là il y a 10 ans, il était obligé de retoucher à sa trilogie, à faire une nouvelle trilogie jusqu'à qu'il le vende. C'est un peu ce que tu me disais sur Toriyama, quand à partir de Freezer, il a voulu arrêter Dragon Ball, passer à autre chose et dire voilà, je suis en tant qu'artiste, je pense que c'est ça, je suis capable de faire autre chose. Et finalement non, enfin, pour des raisons donc contractuelles, d'éditeur, etc., il a dû continuer. Là, au bout de 10 ans, il y revient de nouveau, bon, pour des raisons qu'on ne sait pas, mais avec une œuvre qui est de toute façon pas...
Plus de 10 ans, ouais. La série, l'arrêt de Dragon Ball Z du manga, c'était en 1995, donc ça fait 18 ans exactement.
Ouais, je pense qu'il est un peu victime de son succès, parce que, à part Slam Dunk et Dragon Ball Z, je connais pas du tout ses autres œuvres, et on sait pas si je me mets dans la peau d'un...
C'est Toriyama, Slam Dunk ?
Slam Dunk, c'est Toriyama, non ? Ou un autre ?
Dr.
Slump.
Dr. Slump.
Ah,
oui.
C'est la résonance, c'est ça.
Slam Dunk, c'est du...
Voilà.
Mais oui, c'est du basket.
On coupera au montage. À part Dr. Slump et Dragon Ball Z, on connaît absolument pas les séries qu'il a fait après Dragon Ball Z. Entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Z Battle of Gods. Ouais. Et si je me mets dans la peau d'un éditeur et que je vois une nouvelle œuvre de Toriyama, bah, je pourrais prendre un peu peur en fait, parce que d'un côté je me dis c'est nouveau, cool, ça va faire du buzz, mais je me dis que voilà, ça va être forcément moins bien, j'ai quand même un fort pourcentage que ça va être moins bien que Dragon Ball Z, donc je vais pas forcément, si je l'achète, de m'appuyer sur son nom.
Ah, je sais.
Chose qui peut se faire dans le cinéma au contraire.
Après bon, Toriyama, comment dire, n'est pas... il n'a pas, comment dire, que Dragon Ball Z à son arc, bon, même si ça représente, enfin, Dragon Ball et Dragon Ball Z, 99% de ses compétences, mais il est notamment aussi character design pour énormément de jeux vidéo, notamment la super franchise, le jeu de rôle le plus populaire au Japon, qui est Dragon Quest.
Ouais,
donc...
Ok, bon, Dragon Quest c'est bien, mais George Lucas, Indiana Jones aussi, donc c'est la comparaison peut tout de même encore marcher quoi. Comme...
D'accord, ok. moi j'aimerais revenir peut-être sur un défaut dans Dragon Ball Z. Enfin, ça m'amuse un peu de penser à ça, mais le super guerrier, le super Saiyan en fait devient blond, et donc concrètement, en gros. L'homme le plus fort à la base a les cheveux noirs, et donc pour devenir super puissant il doit devenir blond. S'il y a un petit côté un peu
Pas les yeux bleus d'ailleurs,
c'est un goût, ouais genre blond, bah, yeux bleus, il y a un petit côté un peu germanique,
grosse poitrine bien musclée.
Ouais, non, mais un petit côté germanique, je sais pas trop quelles sont ses influences, bon, je vais pas trop débattre là-dessus, mais
après c'est clair que
super
non...
Saiyan Aryan, bon bref.
Ouais,
c'est non, comme la chompette.
Ouais,
c'est un peu c'est le blond, ouais. Bah, non seulement, effectivement, c'est très loin de... Bah, qu'il est blond avec les yeux bleus, non ?
Vert,
les
vert, yeux verts, mais bon, ouais.
C'est les yeux clairs.
Ouais, c'est l'électricité qui
est très loin. Il est très très loin de l'identité japonaise, hein. En tout cas de ce que peut être un japonais, même quand il est super fort et qu'il fait plein d'arts martiaux et qu'il arrive à atteindre un niveau de Saiyan.
Contrairement aux filles, qui elles sont par contre assez proches de ce qu'il faisait, ce qui était vestimentairement ou dans l'attitude japonaise.
Oui, même Videl, ouais. C'est exactement la même que Shishi, un peu l'équivalent de...
Ouais, non, voilà, c'est ça se rapproche bien aussi de la société.
En fait, il y a un côté aussi un peu très patriarcal aussi,
ouais.
Les femmes restent à leur place,
ah oui,
ce sont les hommes qui deviennent puissants. Et
Videl essaye un petit peu, quoi. Bon, c'est vrai, c'est léger, quoi.
Ouais, enfin, elle se prend une balle dans la jambe. Mais c'est pas très important comme spoil dans Battle
mais
of Gods.
Ce que tu voulais dire, c'était un côté un peu aryen, c'est ça, dans le côté super guerrier, en fait, sur des représentations du surhomme.
Bah, c'est pas un peu ce que j'ai voulu dire, je l'ai dit d'ailleurs.
D'ailleurs, tu l'as dit, ouais.
Mais voilà.
Comme t'as été coupé. Moi, il y a quand même des trucs assez fascisants dans Dragon Ball Z, c'est pas faux. Non, mais qui sont en plus du côté, généralement, qui peuvent être du côté de l'ennemi, parce que l'armée du ruban rouge, Ils ont des uniformes un peu fascistes, enfin ils sont bruns, ils ont des...
Voire nazis.
Ouais, non, effectivement. Donc ils sont du côté... Ils jouent, comme dans beaucoup de mangas d'ailleurs.
On peut penser à Freezer aussi.
Ils sont une équipe
de personnages qui vont un petit peu détruire la population de la planète Namek.
Les forces spéciales, c'est un peu sa Gestapo, quoi. Hein. Ouais.
Enfin, donc,
après, c'est peut-être nous qui imaginons plein de trucs.
Je sais pas, on retrouve dans...
Des fois, c'est...
Non, on retrouve peut-être un peu dans l'univers de Dragon Ball et d'ailleurs dans l'imaginaire populaire japonais quelques vestiges qui peut y avoir qui viennent de la Seconde Guerre mondiale, de tout cet univers quoi.
Et d'ailleurs, après, y compris même revenir un peu plus là-dessus, même il me semble que le chef de l'armée du Ruban Rouge, une espèce donc de...
Oui, ah non, pas Ruban Rouge, pardon, j'étais encore sur Freezer.
Donc, quelqu'un, comment dire, qui a un œil crevé, là, avec une œillère de pirate, qui a des accoutrements, enfin, mais complètement, genre de l'oncle Sam, genre du milieu du Texas, bah, son bras droit, son majordome, c'est un black, mais façon, guerre de sécession, quoi.
Il y a des caricatures un peu. On va dire que c'est raciste et que c'est fasciste maintenant dans Dragon Ball.
Le chef et puis il prend sa place. Hein.
Ouais. Ah ouais, en fait c'était déjà Django Unchained avant l'heure en fait.
Voilà, bon il prend sa place 3 secondes parce qu'il se fait défoncer les dents par Sangoku juste après, mais ça c'est encore autre chose.
Voilà, c'est ça.
Et il faut en parler quand même parce que c'est vrai que ça a fait énormément débat à l'époque quand c'est passé sur TF1, donc au Club Dorothée, sur la perception de la violence qu'il y a eu, qui a choqué. Alors, bon, ça, on va peut-être pas revenir sur cette polémique qui me semble ultra... Voilà, ouais. Assez passéiste. Mais néanmoins, est-ce que, même si c'est le manga le plus populaire, Dragon Ball n'a-t-il pas contribué à faire du manga un sous-genre qui est toujours peu considéré par le milieu culturel et critique français? Alors, j'ai pour exemple le fait que, là c'était en janvier de cette année au Festival d'Angoulême, Akira Toriyama était favori pour avoir le grand prix selon le public.
Ouais, ça,
le Festival d'Angoulême a quand même refusé qu'il ait le grand prix pour lui donner un prix d'honneur et le donner à Willem. Donc il y a encore cette idée que le manga c'est quand même de la sous-culture. Et est-ce que le fait que Dragon Ball soit tellement mis en avant n'a pas favorisé alors c'est pas notre génération mais c'est la génération d'au-dessus qui fait que le manga c'est un truc de sous-culture et de crétin.
De toute façon faut savoir que les plus grands succès populaires ont toujours été massacrés par la critique hein.
Souvent. Et c'est pas que la critique, c'est plus une perception générale. Sauf nous
oui, mais une perception générale de gens qui ne se sont pas donné la peine de vraiment découvrir ça. Je veux dire, je pense aux parents, les médias ont pris un peu le manga en grippe comme ils ont pris par la suite le jeu de rôle puis le métal. Je veux dire, ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour faire peur et pour faire vendre. Donc les parents, comme d'habitude, se sont jetés dans la brèche et le manga est devenu un sous-genre, mais c'est pas tant du fait que Dragon Ball en soi était mis en avant, c'est le Club Dorothée en général. Le Club Dorothée a eu du succès avec les animés qu'ils ont diffusés. Bon, ils ont commis quand même quelques erreurs parce que diffuser Ken le Survivant, c'était pas forcément, pour des gamins de 10 ans, c'était pas forcément le plus adapté quand même.
Surtout juste après les Bisounours.
Oui, voilà. Mais il y a eu un amalgame et il a fallu, c'est simple, hein, il a fallu attendre Ghibli pour que l'animé japonais retrouve ses lettres de noblesse.
Et encore, comme on le voit avec Angoulême cette année, c'est pas encore tout à fait accepté par une partie de la population, par l'élite, on va dire. Intellectuel en France. Quoi.
Ouais, enfin, One Piece, il avait reçu aussi des awards à Japan Expo, ça passait bien.
Ouais, Japan Expo. Ouais. Mais c'est pas. Enfin, tu vois, Angoulême, c'est le côté.
Ouais, mais il y avait un côté.
La bande dessinée, c'est sérieux, quoi. Tu vois, Japan Expo.
Ouais, mais il y avait des raisons qui avaient été évoquées sur Internet, mais ça avait rien à voir à ce que tu nous disais. C'était quelque chose de. Pas politique, mais il y avait un truc derrière, mais je me rappelle plus exactement.
Ok, bon, sans revenir sur cette polémique, alors. Je pense qu'on va passer à la dernière partie, sauf s'il y a d'autres trucs que vous aimez pas dans Dragon Ball Z, cette série raciste, fasciste, et qui fait partie de la sous-culture française.
Mmh,
non, je pense que t'as bien résumé le truc.
Très bien.